Alors c'est vrai que cet enjeu du partage des connaissances entre experts et d'un porté à connaissance par l'intermédiaire d'un portail, d'une base de données vis-à-vis des gestionnaires est forcément un très gros enjeu. Alors il y a peut-être des gens dans la salle, on souhaitait quand même discuter de ce sujet ensemble, et y compris avec les intervenants qui sont là aujourd'hui et ce matin. Finalement, est-ce que des bases de données locales, ce qui se passe au niveau national, est-ce que vous sentez qu'on part dans la bonne direction ? Prenez-le.
Moi, je pense que c'est une question importante. Actuellement, c'est à la mode un petit peu de dire on va faire des bases de données, on va transversaliser la connaissance. Bon, une fois que c'est dit, on n'a pas tellement avancé. Ok, on fait des grosses bases de données. D'abord, ça pose quand même des problèmes de constitution de ces bases de données, de gestion de ces bases de données. La question, c'est qui les utilise et qui fait quoi avec. Et là, je pense que je voudrais revenir à un grain un peu plus fin. Concrètement, qui fait quoi parmi les acteurs ? Alors, ok, on a une invasion biologique qui commence. Je vais parler du frelon, je la connais bien. On a par exemple deux ministères qui sont concernés. Le ministère de l'Environnement, selon moi, qui suis plutôt écologue, c'est plutôt le ministère de l'Environnement qui est concerné. Et qui, alors on en revient à la question du financement, mais il n'y a pas que les sous. Mais les sous sont assez illustratifs des prérogatives de chacun. Concrètement, le ministère de l'Environnement n'a jamais mis un fifrelin dans cette affaire-là et considère que c'est de l'affaire du ministère de l'Agriculture parce qu'il y a une profession apicole derrière. Et selon moi, l'enjeu est bien plus large. Et tant qu'on fonctionnera avec ce type de manière de penser, je crois que rien n'avancera.
Peut-être le ministère des Affaires étrangères.
Bon, moi, j'ai beaucoup apprécié votre discours. Il va falloir qu'on passe à des bases de données, des surveillances de territoire. Il va falloir changer un peu de maille. On ne peut pas adresser ça à une maille régionale, on ne peut pas adresser ça à une maille locale, ni pour l'acquisition de données, ni pour les procédés de gestion. On en parlera après dans la gestion. Le cas du frelon, je veux dire, on a vu des municipalités engager des plans de gestion alors que les municipalités à côté faisaient des choses complètement différentes. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas marcher, ce genre de choses. Mm-hmm. Et une région fait une chose, et la région Aquitaine est assez proactive d'ailleurs dans le domaine des invas bio, tant mieux, mais je ne pense pas que les régions voisines fassent la même chose. Et je pense même que les solutions sont supranationales. Enfin, je pense qu'on ne peut pas se contenter de mettre des petits plans comme ça et puis même mettre des gros chèques sur la table. Hein. Ça ne fait pas avancer le système.
D'accord. Laurent Guérin.
Oui, il y a une notion qui est aussi en écologie, c'est la notion d'échelle emboîtée. Et je pense que c'est important qu'il y ait des systèmes d'observation au niveau régional, au niveau national et au niveau européen. Je travaille dans les trois niveaux. C'est des choses qu'il faut organiser. C'est presque du domaine du fantasme, ces bases de données interopérables entre tous les pays, sur tous les domaines. Il y a beaucoup de travail. Des points de vue déjà technique et organisation, c'est quelque chose de très compliqué, de très technique, qui est presque du domaine de la recherche, je pense, en termes d'informatique et de bases de données. Mais c'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Et je pense que même si c'est imparfait, si certaines régions, municipalités sont précurseurs sur le domaine, c'est bien de lancer cette dynamique. Je pense que c'est intéressant, mais il faut vraiment se caler par contre sur des standards ou des choses qui soient compatibles, que ne se lance pas de façon anarchique. Il y a aussi des organisations à créer entre les différents acteurs. On parle et on incite aussi. Il y a des projets dans le cadre du Muséum d'histoire naturelle, aussi sur les sciences participatives. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus, notamment pour les espèces introduites, quelque chose d'un peu ludique, d'aller rechercher des espèces exotiques. C'est quelque chose qu'il faut quand même encadrer d'un point de vue scientifique, par exemple. C'est-à-dire que sur la détermination des espèces, et particulièrement des espèces introduites, ça demande des connaissances en termes de systématique pour certaines espèces du milieu marin, mais je pense que c'est la même chose dans le milieu terrestre. Il y a des connaissances à avoir, et c'est un travail de spécialiste pour valider ces observations et comprendre sa vision, en s'appuyant ensuite sur un réseau d'observateurs. Cette notion d'échelle emboîtée, que ce soit en base de données, en observation, etc., je pense que c'est quelque chose d'important, mais qui est un gros travail à organiser.
Est-ce que le problème de la base de données, finalement, c'est un problème plus global et plus générique qu'on rencontre dans le partage des connaissances en matière de l'écologie, pas seulement pour les espèces invasives, mais est-ce que la question des espèces invasives peut faire avancer le sujet d'une certaine manière, puisqu'on considère que c'est un problème, que c'est souvent un problème de politique publique? Est-ce que ça peut servir justement à susciter peut-être des synergies et des dynamiques qu'on n'a peut-être un peu plus de mal à mettre en place du fait de l'ampleur des données que l'on doit amalgamer. Comment vous voyez les choses ? Parce qu'il y a une question aussi de, parfois de propriété de la donnée, de la connaissance, de l'étude. Enfin, ce n'est pas qu'une question de l'open data libre.
L'open data, pour l'instant, peut-être ça se mettra en place, mais enfin, ça pose d'énormes problèmes. Hein. C'est qui appartient les données et tout, et on commence à voir de la vente de données. Si Google se met à acquérir plein de data, c'est pour des problèmes de private data, justement. Ce n'est pas pour de l'open data. Hein. Moi, je voudrais revenir. Les invabio a posé une grosse question. Une invabio, c'est a priori explosif, donc rapide en termes de dynamique. Et ça nous interroge beaucoup sur les capacités de gestion, les capacités de recherche qu'on a, et sur la dynamique qu'on a à mettre en place justement des plans de gestion ou des plans de recherche, hein, ou des projets de recherche. Et on n'est pas du tout en phase là-dessus. C'est-à-dire, concrètement, quand il y a une explosion d'une espèce, nous, on n'est pas capable de mettre en place, on n'a pas des pas de temps suffisamment courts pour regrouper des gens autour de la table. On a vu dans les diapos de remerciement des différents exposés, enfin moi je suis affligé, la mienne en premier, je veux dire, il y a quoi, il y a 10 personnes qui travaillent, allez en France on va dire, il y a 25 personnes qui travaillent sur le problème du frelon asiatique. Alors peut-être en végétal c'est peut-être un peu plus, parce que peut-être pas d'ailleurs, mais je veux dire, tant qu'on en sera là, ça ne fonctionnera pas. Typiquement, on commence à avoir, pour l'histoire du frelon, des critiques des collègues européens qui commencent à dire « Mais la France, qu'est-ce que vous avez fait depuis 10 ans ?» Donc là, je vais être provocateur, nous n'avons rien fait en termes de mise en place de quoi que ce soit. Seule chose qui a été mise en place, c'est des plans de piégeage. On savait au départ que ça ne fonctionnait pas, certains l'ont dit, j'en fais partie. On a continué quand même, on a mis beaucoup d'argent là-dessus, c'est du gaspillage. On sait maintenant que ça ne fonctionne pas, que ça a des effets nocifs sur l'environnement et choses comme ça. Mais concrètement, on n'a rien fait. Quelqu'un, depuis 10 ans, a-t-il exploité une base de données nationale ? Elle existe, la base de données nationale. Elle est inexploitable parce que ceux qui gèrent la base de données nationale, là je vais être un peu méchant avec eux, ils refusent de donner l'accès à tout le monde. Résultat, il n'y a aucun modèle mathématique de dispersion spatiale de la bestiole qui existe parce qu'aucun mathématicien n'a pu avoir accès à ces données. Enfin, c'est affligeant.
Vous parlez du frelon asiatique, là, pour le cas du frelon asiatique.
Oui, mais je pense qu'on peut multiplier ça à l'envi sur d'autres exemples. Enfin, voilà, je montre juste ça comme exemple. Voilà. Bon,
Laurent
vous parliez
Bertrand,
d'argent mis sur la table. Quoi ? 700 000 euros en tout et pour tout depuis 10 ans qui a été mis au niveau national sur le frelon et la moitié a été mis par l'Europe. Bon, voilà, c'est tout.
Je comprends que c'est assez frustrant. Hein. On est tous là-dessus. J'ai essayé d'être un peu plus optimiste. J'ai connu l'époque où on avait des disquettes. J'ai connu les premiers mails. C'est pas si vieux. Un peu moins vieux que j'en ai l'air, mais je pense que ces systèmes de communication et d'information qui se développent doivent se développer. On est encore aussi à une phase de début, donc forcément il faut des moyens, il faut des volontés politiques. Pour répondre à la question des invasions biologiques, est-ce que ça peut favoriser, il y a un petit côté, ça peut sortir dans les médias, c'est quelque chose qui est médiatique, qui interroge les gens, donc ça peut aider. C'est pas simplement, c'est aussi une vraie question scientifique, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur laquelle on peut surfer, que ce soit en local ou sur des... Dès que c'est un problème qui est reconnu au niveau mondial, hein, je le rappelle, c'est la Convention de la biodiversité, c'est reconnu au niveau mondial comme un des problèmes majeurs. C'est aussi quelque chose de très intéressant d'un point de vue fondamental, parce que le fait que le fonctionnement des écosystèmes soit perturbé, c'est la définition de l'écologue, hein, travailler sur le fonctionnement de l'écosystème, souvent ça révèle justement la façon dont fonctionne cet écosystème. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant d'un point de vue même fondamental. Donc après, pour en revenir aux bases de données, je pense que voilà, il y a beaucoup de travail sur la planche. On va espérer que ça va avancer. Ça dépend pas de moi ni de vous.
Annabelle Portet, vous vouliez ajouter.
Moi, je voudrais pas forcément même parler bases de données parce que je pense qu'on n'en est pas là. L'impression que j'ai sur les invasions biologiques, surtout chez nous, hein, pas forcément à l'étranger, c'est qu'en fait, c'est une question qui est là depuis assez longtemps chez les gestionnaires, qui est extrêmement récente dans la recherche, et on est en ce moment en train de s'organiser. Je dirais ça au niveau national, parce que, par exemple, il a été créé un groupement de recherche pour essayer de faire se rassembler les chercheurs qui travaillent sur les invasions biologiques. La première réunion, elle a lieu en octobre cette année. Donc en fait, on est dans une phase où finalement, on y allait tous les uns les autres solliciter individuellement sur telle ou telle question. Et peut-être ce regroupement est seulement en train de se faire au niveau national, cette organisation. Donc j'ai aussi envie d'être sur ce côté optimiste, c'est qu'on court beaucoup puisque le processus est extrêmement rapide, mais petit à petit on cherche cette organisation-là, et peut-être qu'en gagnant cette lisibilité-là, ou aussi d'organisation ou même médiatique, on peut arriver à faire monter en puissance ces questions. Un peu comme comme le changement climatique qui a été étudié des années et des années avant que ce soit un sujet, on va dire, porteur ou médiatisé.
Donc, Cécilia Kless, vous vouliez dire quelque chose ?
Bonjour, donc Geoffrey Dehaez, ça marche ? Oui, je suis économiste à IRSTEA. J'avais une question pour Vincent. T'as évoqué finalement une évolution des demandes d'information par les gestionnaires, en montrant effectivement au début c'était les localisations, la localisation sur les rives, après ce que t'as appelé au large, pardon, j'ai peut-être pas les bons termes, et puis des questions aussi sur la qualité chimique, etc., etc. Est-ce que pour toi, ça peut-être que tu n'as pas trop d'informations là-dessus, est-ce que pour toi, tu penses que ça traduit une évolution dans aussi la représentation, les objectifs qu'ont les gestionnaires de ces espaces-là ? Le fait qu'on regarde quelque chose de particulier, ça fait qu'on a une vision de la finalité de ces espaces-là ou pas. Et la question emboîtée, c'est est-ce que tu crois aussi que quel rôle peuvent avoir les scientifiques, les chercheurs, dans la définition de ces besoins d'information ? Est-ce que c'est juste vraiment répondre à une demande, ou est-ce qu'il y a une co-construction là-dessus qui s'est faite ?
Alors, tu parles de la vision écologique ou la vision économique de la... C'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai que ça dépend beaucoup. Moi, on travaille avec des grosses bases de données au niveau européen aussi, etc. Je pense que c'est vraiment des problématiques qui sont différentes en fonction du milieu sur lequel on va travailler, des espèces sur lesquelles, par exemple, pour les plantes exotiques, pour les plantes aquatiques exotiques, c'est pas du tout les mêmes processus que, par exemple, un animal qui va voler ou qui va courir le long d'un... Donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Les gestionnaires, en fait, eux sont demandeurs en fonction de déjà ce qu'ils voient, c'est-à-dire des choses qu'ils voient pas et qu'ils comprennent pas. Et ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont mis à comprendre au fur et à mesure de ce que nous, on apprenait par rapport à l'impact de ces milieux-là. C'est pour ça qu'après, outre le fait que sur certains sites, on pouvait plus pêcher, on pouvait plus chasser, on est passé à une question de, il faut atteindre un certain état écologique, parce que derrière, il y a des coûts importants liés à la réhabilitation, à la restauration du milieu, quand les biomasses sont trop importantes, qu'on va se retrouver avec un niveau trophique élevé, mortalité de poissons, etc. Donc c'est un cercle vicieux. Voilà, c'est vraiment particulier au fonctionnement. En tant qu'espèce ingénieure, les plantes aquatiques ont vraiment structuré leur habitat, ce qui n'est pas forcément... peut-être le cas de certains autres organismes. Après, là, en ce moment, c'est vrai qu'on essaie d'avoir une vision un peu plus globale, mais comme je le disais tout à l'heure, au niveau européen, au niveau local, à l'échelle d'un port, les questions seront complètement différentes. Et autant il faut se poser des questions au niveau, à très large échelle, peut-être pour débloquer les fonds, je pense que les questions, elles ne seront pas généralisables, génériques, pour tous les milieux, tous les sites, etc. Je pense qu'il doit y avoir après un redéploiement au niveau local, avec des questions très précises sur... Quel mode d'intervention ? Est-ce que les plantes, on intervient ou on n'intervient pas ? C'est ce que je disais un peu au début de ma... Je pense qu'on ne peut pas avoir une vision générique pour un certain nombre d'espèces, ou même une espèce à l'échelle du territoire. Je pense que, pour les plantes aquatiques, je parle, hein, je pense qu'il doit y avoir des plans très précis d'intervention pour pas justement créer des artefacts, des impacts plus importants dans l'avenir, si on fait un peu n'importe quoi.
Merci beaucoup.
Si j'ai répondu à ta question.
Madame.
Donc Muriel Barthes, qui représente la filière des vins de Bordeaux. Je voudrais être moi aussi un peu optimiste, parce qu'il me semble que dans ce que vous avez dit, notamment monsieur, sur les échelles emboîtées, je pense qu'on est tout à fait dans ce qui permettrait potentiellement de prévenir des invasions, dès lors qu'on compile l'information collectée potentiellement dans des réseaux d'observation qui sont au quotidien sur le terrain. Donc je pense aux agriculteurs, bien évidemment. Et la force de l'informatique peut permettre, me semble-t-il, de collecter la donnée brute, sachant qu'il y a une interface à trouver qui est l'analyse de la donnée brute pour la traduire en fait scientifique. Et là, on a besoin d'outils, par exemple, hein, des reconnaissances de champs d'oiseaux, des reconnaissances de visuelles d'espèces, des, voilà, ce que n'est pas censé faire l'observateur. Il y a déjà des exemples qui fonctionnent bien. L'Observatoire agricole de la biodiversité sous l'égide du Muséum d'histoire naturelle en est un exemple. En Gironde viticole, je crois qu'on a une centaine d'observations qui fonctionnent, où ce sont les viticulteurs eux-mêmes qui traquent les abeilles solitaires, par exemple. Ce sont des exemples simples qui font qu'on n'a pas besoin de grands spécialistes de la, d'une espèce. On a juste besoin de gens de terrain qui se disent « Tiens, j'ai vu ça à un moment donné ». Donc en ce qui concerne ce que vous préconisez aussi sur la mutualisation de l'espace là, avec l'Observatoire aquitain de la faune sauvage, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous. Et si on peut mettre aussi à votre service, et je le dis pour tout le monde, mais je sais qu'il y en a qui le savent déjà, mais au niveau donc, de la filière, on dispose nous d'un outil qui s'appelle un système d'information géographique qui est assez performant, pour ne pas dire plus, dans lequel on a une vectorisation à la parcelle. Donc, et ça, tous nos acteurs, y compris les salariés agricoles sur leur tracteur avec un petit smartphone, peuvent se géolocaliser. Et donc, voilà. Donc, je pense force que le problème, il est à la fois de volonté. Et ça, je crois que la volonté, elle est de plus en plus en train de se dessiner au niveau d'abord local, avant de vouloir que ce soit au niveau national que les choses s'emboîtent. Il faut déjà commencer à avoir une volonté locale. La transversalité filière, des fois, est une aide, hein, et ne serait-ce que parce qu'on parle du nerf de la guerre qui est les finances, il s'avère que la filière des vins de Bordeaux a un peu de finances qu'elle met dans la recherche, donc on peut trouver des acteurs aussi économiques, j'ai ma voisine du conseil régional qui est dans le même dispositif, donc je pense que c'est pas un problème de financier, souvent c'est un problème de volonté et d'échange et de mettre en place un dispositif commun sur lequel on utilise toutes les ressources à leur niveau, en les positionnant et avec les limites qui sont celles de l'observation, qui permet la prévention, à condition qu'on ait la science qui nous ait donné les clés de lecture.
Voilà. Merci, ce que vous merci dire, beaucoup.
Je crois que demain...
Merci. On va
je tiens à souligner aussi que le but de mutualiser de l'information à un endroit donné, c'est aussi pour la partager par la suite, et non pas pour la garder aussi, et donc de permettre aussi différentes exploitations de ces informations...
On prend deux dernières questions ou remarques et assez rapidement pour clôturer cette table ronde et passer à la suivante, s'il vous plaît. Merci.
Oui, je vais être courte. Je suis Isabelle Aubi. Je travaille à la station Ifremer Arcachon. Je voulais signaler quand même que les bases de données et l'open data, là, ça existe, mais ça nécessite une forte volonté des organismes scientifiques. À l'IFREMER, c'est extrêmement pratiqué. On a accès facilement et rapidement grâce à des sites internet dédiés aux séries de données sur la qualité de l'eau, sur les contaminants, sur le phytoplancton. On a accès aussi à des cartes, on a accès aussi à toute la littérature sortant de l'IFREMER. Donc, et tout ça, notamment grâce à la base Quadrige, qui est la base du ministère de l'Environnement. Donc, j'invite chaque organisme à copier ce modèle-là de l'IFREMER.
C'est peut-être rapide ça, Isabelle. Je pense que l'INPN existait bien avant, par exemple, la base du muséum.
Merci beaucoup. Écoutez, on ouvre un champ assez vaste sur cette question des données, mais on ne va pas le clôturer maintenant. On va laisser la question ouverte peut-être pour un prochain séminaire. Merci beaucoup à nos intervenants. On peut les applaudir, je crois, tout simplement.